Arnaud Thomas Chevalier, maître Thomas Chevalier, notaire et notable, fils d'un bâtonnier, neveu d'un professeur de droit et mari d'un procureur de la République, le CV parfait du bourgeois de province. Sauf qu'en 1989, cet homme a été accusé, et la vérité c'est qu'il s'est accusé lui-même du meurtre d'un autre notaire, maître Flaudert, retrouvé mort 9 ans plus tôt, une nuit, au bord d'une route de campagne de Meurthe-et-Moselle. Un notaire qui tue un autre notaire. Mais pourquoi ? Pour l'argent, pardi, pour lui prendre sa clientèle. Maître Arnaud Thomas Chevalier sera condamné lourdement pour le meurtre de son confrère. Mais est-il vraiment coupable ? Arnaud Thomas Chevalier, eh bien c'est vous. Et j'ai une première question toute simple à vous poser. Avez-vous tué Maître Flaudert ?
Non. Non, comme je l'ai toujours dit depuis près de 15 ans. Et c'est un peu une des raisons pour laquelle je suis devant vous. Je suis innocent. Et c'est tout.
Tout commence le 4 février 1980. Ce jour-là, vers 17h, Maître Flaudert, notaire à Cons-la-Granville, quitte son domicile. Dans l'après-midi, il a reçu un coup de téléphone à son étude et il a prévenu son épouse qu'il se rendait à Museret pour un rendez-vous avec une cliente. C'est promis, il sera de retour pour dîner. Une demi-heure plus tard, Jean Flaudert arrive à Museret. La nuit tombe déjà. Les heures passent et l'épouse de Maître Flaudert commence à s'inquiéter. Le notaire n'est toujours pas rentré chez lui. Elle prévient leur fils, Jean-François. Celui-ci appelle Denis Rôti, le premier clerc, et tous les deux partent à la recherche de Maître Flaudert en direction de Museret. Un peu avant 2h du matin, à l'écart du village, ils découvrent devant une maison en travaux en bordure d'un champ la Renauvin du notaire. Et quelques mètres plus loin, une forme allongée sur le bas-côté. Un corps. C'est Maître Flaudert. Les deux hommes vont immédiatement chercher de l'aide dans une ferme voisine.
Mon mari s'est levé, a ouvert les volets, a demandé qui est-ce, qu'est-ce que vous voulez.
Il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui s'est presque mis à genoux dans la cour, qui m'a dit, je vous en supplie, téléphonez, il y a un accident grave, il y a quelqu'un qui va mourir, qui est peut-être déjà mort. Alors là, je dis à ma femme qu'elle appelle les flics, hein. Qu'il y a des gugus dans la cour qui m'embêtent, quoi.
Et j'ai téléphoné à la gendarmerie de Bouligny qui m'a dit, je leur ai dit, écoutez, il y a deux personnes qui sont là qui veulent absolument téléphoner. Ne leur ouvrez pas, mais demandez au moins comment ils se prennent.
Puis c'est là qu'il a donné son identité, qu'il était Monsieur Flaudert, le fils du notaire de Cons-la-Granville. Bon, je savais déjà au moins à qui j'avais affaire.
En attendant, je suis le fils Flaudert de Cons. Mon mari est descendu et leur a ouvert la porte.
Rassurés, les Picards accompagnent Jean-François Flaudert et Denis Rôti sur les lieux de ce qu'ils pensent être un accident de la route. La R20 du notaire empiète largement sur la chaussée. La portière est déverrouillée. Les clés de contact sont en place. La voiture est vide. De l'autre côté de la route, à une quinzaine de mètres, au pied de la maison en travaux, il y a le corps.
J'ai vu quelqu'un qui était allongé, qui était pâle, et puis je lui ai mis la main sur la tête. Puis j'ai senti que c'était tout froid comme du marbre. Puis j'ai regardé les deux autres, j'ai dit, bon, ben, il est mort, ben, il ne répondait pas. Puis il y avait quelque chose qui m'intriguait, il y avait un petit rond noir comme une brûlure de cigarette juste en dessous d'un œil. J'ai fait la réflexion, mais il s'est fait flinguer, j'ai dû lui dire quelque chose comme ça.
Mais il y a autre chose qui intrigue les Picards. Il a plu toute la soirée, le sol est boueux, et pourtant, les habits du notaire sont propres et secs.
Moi, j'étais un petit peu surprise parce que j'ai vu Maître Flaudert qui était allongé sur le sol. Il mousinait, il pleuvait et le corps était sec.
Il était comme si on l'avait déposé et prêt à mettre dans le cercueil. Voilà, il avait la cravate bien tirée, le costume bien tiré, tout. Il avait une main le long du corps, une autre légèrement sur la veste. Il y avait le fils de M. Flaudert qui avait la tête entre ses mains, qui se posait des questions, mais qui sait qui pouvait bien en vouloir à mon père pour le tuer.
Mon mari m'a dit, écoutez, va retéléphoner à la gendarmerie parce que ce n'est pas un accident, mais un crime.
Denis Rauty, à l'époque des faits, il se trouve que vous connaissez vraiment bien Maître Flaudert, puisque vous êtes son premier clerc depuis combien de temps ?
1965. Donc il est décédé en 80.
Et il se trouve que vous êtes un des premiers alertés par sa disparition et que vous partez à sa recherche.
Oui, tout à fait. J'ai reçu un appel téléphonique vers minuit, minuit et demi. C'était donc le fils à Maître Flaudert, Jean-François Flaudert, qui m'appelait pour me dire que son père était parti dans un rendez-vous à Museray-en-Meuse. Ce que je savais, Maître Flaudert m'en avait un peu parlé, et qui n'était pas rentré.
Donc vous partez vous-même
sur place.
Donc
à ce moment, je lui dis, écoute, il a dû avoir un malaise, quelque chose, il faut qu'on aille le chercher, je prends une torche, je m'habille, tu viens me chercher, on file à Museray. Et en arrivant dans le village, dans une maison à l'écart, sur le bord de la route, gisait le corps de mon patron.
Très visible de la route.
Tout à fait, nous sommes arrivés, ils étaient en bord de route.
Et qu'est-ce qu'il vous avait dit de ce rendez-vous qu'il avait dans ce village-là ? Est-ce qu'il était intrigué par ce rendez-vous d'une manière ou d'une autre ?
Pas du tout.
Il ne vous a pas paru intrigué ?
Non, pas du tout, parce que lorsqu'il m'a dit « je vais aller à Museray », j'ai eu un appel d'une certaine Madame Erard, j'ai souvenance du nom, qui était de Nancy, qui ne peut pas se déplacer autrement, elle a des affaires de famille, une donation partage à régler, il faut que j'aille la voir, je vais à Museray. Bon, c'est tout, quoi. Il ne m'avait pas dit autre chose. Et il y est allé en toute confiance, c'est sûr.
J'aurais voulu nous parler de cet homme. Quel genre d'homme était Maître Flaudert ? Très notable ou plutôt simple ?
Simple. Ça, sans ambiguïté. Très simple.
Est-ce qu'il avait des ennemis ?
Moi, je ne lui en connaissais pas. Je ne lui en connaissais pas, foncièrement parlant. Je ne lui voyais pas d'ennemis. Il avait bien des gens avec qui il s'entendait moins. Ça existe, hein ?
Est-ce que, et ça arrive, c'est le genre de notaire qui traitait de quelques affaires douteuses ?
Pour moi, pas.
Le lendemain, au réveil, Conce Lagrandville apprend la mort brutale de son notaire. Maître Flaudert était connu et apparemment respecté, et c'est la première fois qu'un crime touche la petite commune. Or ici, on n'aime pas les histoires. Le meurtre du notaire, on a du mal à y croire.
Ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible qu'une telle chose puisse arriver. Donc tout le monde se posait de multiples questions. C'est quelque chose qu'on ne pouvait imaginer qu'arrivant de l'extérieur, mais se passant en même temps à l'extérieur.
Pendant ce temps, à Museray, là où on a retrouvé le corps, l'enquête démarre dans la confusion. Naturellement, ce sont les gendarmes du coin qui ont débuté l'enquête, mais le procureur a finalement décidé de faire appel à la PJ de Nancy. Les inspecteurs prennent réellement les choses en main en fin de matinée, le lendemain du meurtre.
On constate que la scène de crime a été entièrement modifiée, qu'il n'y a plus aucun enquêteur sur place, que les lieux sont vides.
12 heures après la découverte du corps, les policiers pensent que de nombreux indices ont été effacés.
Des traces de pneus, il y en avait autour de la voiture de Maître Flaudert. Mais il y a eu tellement de voitures qui sont venues, tellement de gens qui ont pétiné, que toutes ces traces ont disparu. Donc il n'y a pas eu de relevé fait par les gendarmes. On voyait encore quelques traces de sang par terre, mais les recherches qui avaient déjà effectuées par les gendarmeries n'avaient pas permis de trouver de douille, d'une part, aucun impact.
Il faut donc attendre le rapport d'autopsie pour avoir les premiers éléments concrets. Le rapport révèle que le notaire a été atteint de 6 projectiles de calibre 22 long rifle. On a extrait du corps des balles très déformées et plusieurs fragments. 4 de ces balles ont été mortelles et elles ont été tirées à bout portant.
On a l'impression qu'une des premières balles, c'est celle qui a tapé la main du notaire, qui était un geste de défense de sa part.
La première balle, c'est peut-être dans l'affolement, mais les 3 balles tirées à bout touchant ou bout portant, dans la tête, c'est vraiment pour tuer.
C'est une exécution. Selon les légistes, le notaire a été tué entre 22h et 2h du matin. L'autopsie révèle aussi qu'il a dîné et bu un verre de vin 2 heures avant d'être assassiné. Or, le notaire a quitté son domicile vers 17h. Où était-il entre-temps et avec qui ? les enquêteurs tentent de reconstituer le puzzle de son emploi du temps. À ce stade de l'enquête, une seule chose est certaine, des témoins l'ont vu rouler dans le village vers 17h30. Madame Picard, elle aussi, se souvient très bien avoir vu la voiture. Il était 18h, elle discutait avec sa voisine devant sa maison.
Nous avons vu, elle et moi, passer 1h20, passer tout doucement, avec la lunette, la lumière à l'intérieur de la voiture, et j'ai vu le visage d'une personne avec des grosses lunettes. Je connaissais pas cette personne, mais c'est le lendemain, quand j'ai vu la photo dans le journal, que j'ai su que c'était Maître Flaudaire qui passait là.
La dernière personne qui a vu le notaire, c'est à 18h15, ce soir-là, et déjà se trouvait la voiture du notaire en stationnement à partir de 18h30. Personne autour, plus personne n'a regardé et n'a vu le notaire.
C'est étrange. Au moment de sa découverte, le corps du notaire était à 15 mètres de sa voiture, bien visible, au bord de la route. Or, plusieurs automobilistes racontent qu'ils sont passés par là dans la soirée. Ils n'ont pas vu le cadavre.
Il y a l'institutrice qui avait une réunion de parents d'élèves à 8h30 et qui est repassée à 11h du soir aussi, n'a pas vu le corps. Donc c'est entre minuit et peut-être 2h du matin où il n'y avait plus de passage que le corps a été déposé.
Qu'a fait le notaire entre 6h30 du soir et 2h du matin? C'est toujours la question qu'on se pose.
Un cadavre qui apparaît sur le bord de la route à 2h du matin, les policiers pressentent que le notaire a été tué ailleurs.
Il était couché sur le dos, les vêtements bien arrangés, pas de griffures aux mains, pas de souliers qui ont raclé le sol. Il ne portait aucune ecchymose, rien du tout. Et quand on l'a retrouvé, il était vraiment, ses vêtements n'avaient pas, ne présentaient aucune trace de lutte ni de friperie.
Des vêtements donc à peine humides alors qu'il a plu ce soir-là.
Le notaire n'a pas été tué ici. Il a dû être tué ailleurs et transporté.
À Museret, les habitants s'interrogent. Y aurait-il un tueur parmi eux? À voix basse, on ne parle que de ça. Mais à voix haute...
Tout le monde cherchait à savoir le pourquoi et le comment, pourquoi il était venu ici à Museret et quel client il était venu voir. Tout le monde se posait des questions, mais personne ne voulait dire quoi que ce soit.
C'est un milieu rural et un événement comme celui-ci, la mort d'un notaire, mort violente, a créé une ambiance terrible. Tout le monde croyait qu'il risquait quelque chose. Certains ont commencé à parler de menaces de mort les concernant. D'autres fuyaient et évitaient. D'ailleurs, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont été interrogées, qui ont dû entendre parler de quelque chose, voir quelque chose, mais qui ne voulaient pas du tout que leur nom apparaisse dans les procès-verbaux. Dans les campagnes, beaucoup de choses sont vues, mais tues.
Les policiers s'intéressent bien sûr à ce rendez-vous qu'avait le notaire le soir de sa mort. Ce rendez-vous chez une cliente dont il avait parlé à sa femme. Dans la poche de son pardessus, les policiers ont retrouvé un mot, visiblement griffonné à la hâte avant de partir. Madame Erard, première maison à droite, venant de Nouillon-Pont, travaux.
On est parti donc sur les Erard. Effectivement, dans la localité de Buseret, il y a plusieurs familles Erard qui ont toutes été entendues. Aucun n'avait téléphoné, aucune n'avait discuté. Ils connaissaient le nom du notaire, mais sans plus, il n'y a pas d'Erard qui avait donné de rendez-vous.
Erard, serait-ce un nom d'emprunt pour attirer le notaire dans un guet-apens? Mais alors qui pouvait bien lui en vouloir? Les enquêteurs commencent à fouiller dans son entourage.
Le côté familial a été étudié, très vite écarté. La relation féminine, ça a aussi été envisagé, ça a été très très vite écarté vu la personnalité de Maître Flaudaire, qui était bon père de famille et tout ça. Tout a été envisagé. Les seules choses qui ont semblé présenter vraiment de l'intérêt ont été retrouvées parmi les dossiers de l'étude.
Les policiers perquisitionnent l'étude du notaire. Une semaine entière pour éplucher les 7000 dossiers en espérant y trouver le début d'une piste.
Denis Rotti, l'idée des policiers, c'est que la solution du crime se trouve sans doute dans les dossiers que traitait Maître Flaudert. Donc ils vont perquisitionner l'étude. Vous êtes là, hein, ce jour-là.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais il y a beaucoup de dossiers.
Ben, on parlait, je ne les ai jamais trop répertoriés, mais le chiffre de 7000 me paraît même inférieur à la réalité.
Plus de 7000 dossiers?
Certainement.
Ça bon, fait du, donc ça fait que... du boulot pour les policiers, quoi.
Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a des petits dossiers, puis des plus gros, des simples et des compliqués.
Est-ce qu'en fouillant dans les dossiers, vous avez l'impression à ce moment-là qu'ils ont trouvé quelque chose?
Personnellement, pas.
Très vite, en fouillant dans les dossiers du notaire, les policiers trouvent effectivement plusieurs affaires litigieuses. Par exemple, un dossier concernant une société immobilière baptisée les Myrtilles. Ils découvrent que Maître Flaudert était convoqué par la brigade financière de la PJ pour s'expliquer sur des irrégularités dans la vente d'un terrain. Il est mort 3 jours avant d'être interrogé. Voilà une première piste, mais elle est très vite abandonnée. Car un autre dossier intéresse les enquêteurs. Celui de la succession d'une certaine mademoiselle Renaud, propriétaire de plusieurs immeubles, à Longwy. Les policiers découvrent que 4 ans plus tôt, cette vieille dame avait demandé au notaire d'établir son testament en faveur d'une de ses locataires, membre d'une famille de gitans sédentarisés. Maître Flaudert avait trouvé ça louche et il avait refusé. Quelques jours plus tard, la vieille dame était morte et on avait retrouvé chez elle un testament écrit à la main en faveur des gitans en question. Pour le notaire, il s'agissait clairement d'une captation d'héritage. D'ailleurs, la famille déshéritée avait porté plainte et le notaire avait accepté de témoigner en sa faveur contre les gitans. Il n'en aura pas le temps, il est assassiné. Et pour la police, voilà une piste intéressante.
Il devenait, si vous voulez, là, un obstacle majeur pour les futurs héritiers des biens de mademoiselle Renaud.
La famille qui se retrouvait lésée, entre guillemets, par le témoignage de Maître Flaudert, était constitué de gens du voyage, plus ou moins sédentarisés, dont certains étaient défavorablement connus des services de police, de gendarmerie, ainsi que de la justice, pour différentes affaires de vol et autres.
Des gitans, la piste colle. D'autant que pour les policiers, les conditions même de l'exécution marquent la signature d'un clan.
Ces 3 balles dans la tête, dans le crâne, au niveau de l'oreille gauche, me laissaient à penser aussi que ces personnes, ces tueurs, ou ce tueur, mais enfin, si on dit qu'ils étaient plusieurs, ont voulu sceller par le sang le crime qu'ils venaient de commettre.
Les policiers interpellent rapidement tous les membres du clan gitan. Ils sont interrogés pendant 2 jours, mais tous présentent des alibis valables pour la nuit du 4 février. La piste ne se referme pas pour autant, car lors des perquisitions aux différents domiciles des gitans, la police a saisi 7 armes de calibre 22 long rifle. 7 armes qui sont expertisées au laboratoire de police scientifique de Lyon.
Lorsque le laboratoire de police scientifique nous communique son résultat, il est positif et il y a bien une arme saisie lors de l'opération effectuée chez les membres du clan, qui a servi à tuer Maître Flaudert.
Il s'agit d'un revolver 22 long rifle de marque Rome. Il a été saisi au domicile de Maurice, un des membres du clan. À ce moment-là, les policiers pensent qu'ils tiennent l'assassin de Maître Flaudert. Maurice, le gitan, et sa femme sont interpellés dès le lendemain, placés en garde à vue et cuisinés par les enquêteurs. Ils n'ont jamais eu affaire à la justice et se disent innocent. Cette arme n'a jamais servi, disent-ils. C'est un simple objet de décoration.
C'est un jeune couple, si vous voulez, ils s'étaient mariés en 1976. Ils avaient 20 ans l'un et l'autre. Ils avaient donné une certaine décoration, si vous voulez, à leur habitation. Une entrée un peu style Far West. Et donc l'arme faisait très bien, le pistolet faisait très bien, si vous voulez, dans le décor.
Mais il ne comprend pas. Il dit, cette arme, il y a des gens qui venaient chez moi, des membres de ma famille et tout ça, elle était contre un mur, peut-être que quelqu'un l'a prise, tout. Mais il nie formellement être pour quelque chose dans la mort de Flaudert. Il ne connaissait pas le notaire, il avait entendu parler parce que c'était dans la région où il vivait. Il ne fréquentait plus sa famille d'origine, là, si vous voulez, ceux qui habitaient là, oui, que c'est sa grand-mère qui était le chef du clan, pour ainsi dire, il la voyait de temps en temps, mais pas d'une manière suivie, voilà. Total, Absence totale d'informations de leur part.
Ils ne pouvaient évidemment pas répondre d'une manière claire, d'une manière précise, sauf à dire qu'ils ne savaient rien.
Tout accable, le couple de gitans, Maurice et Marie-Hélène, ont un mobile, empêcher Maître Flaudert de témoigner dans l'affaire du testament de Mademoiselle Renaud. Ils détiennent l'arme du crime. Et en plus, ils n'ont pas d'alibi.
L'un évoque un week-end qu'ils ont dû faire dans dans leur famille, chez une tante. L'autre situe ce week-end à 8 jours d'intervalle. Bon. Et là, effectivement, il y a quelques variantes, si vous voulez, entre leurs déclarations, qui sont immédiatement exploitées par les enquêteurs comme étant le signe de ce qu'en réalité, ils ne disent pas la vérité. Bon, mais il est évident, si vous voulez, moi je vous pose la question, qu'avez-vous fait aujourd'hui, il y a 6 mois, 7 mois en arrière, vous serez décontenancé.
Ils se couvraient l'un l'autre. Moi, j'étais avec ma femme, moi, j'étais avec mon mari, mais sans plus de discussion. Résultat, déféré au juge, assez d'éléments pour les inculper, inculpés d'assassinat et écroués tous les deux à la maison d'arrêt de Nancy.
Les enquêteurs découvrent aussi que le couple possédait une caravane. Une caravane où le notaire aurait pu être assassiné discrètement avant qu'on aille déposer son cadavre sur le bord de la route. Or, Maurice et sa femme ont revendu la caravane peu de temps après le meurtre. Cette caravane, les policiers la retrouvent et la passent au peigne fin.
On a passé aspirateur et tout pour essayer de retrouver une poussière qui pourrait laisser à penser que le notaire aurait été tué dans cette caravane. Rien. Simplement, une espèce de tache plus ou moins suspecte sur un matelas qui se trouvait dans cette caravane, que nous avons saisi et envoyé au magistrat instructeur pour les expertises qui devaient se poser.
Les analyses ne donnent rien. Les policiers restent cependant persuadés que Maurice le Gitan et sa femme sont les coupables.
On était pratiquement en face d'un puzzle qui s'emboîtait parfaitement. D'une part, il y avait un mobile. Empêcher Maître Flaudert de témoigner. Et nous avions un rapport d'expertise balistique qui était formel, d'après lequel l'arme en possession d'un des membres de ce clan était l'arme qui avait tué Maître Flaudert. Pour nous, tout collait à ce moment-là.
Bah, ils étaient les coupables désignés, si vous voulez, par... une expertise qui apparaissait comme étant la preuve scientifique. C'est comme si je vous disais, votre ADN, vos empreintes digitales vous accusent, vous, d'avoir commis tel forfait, tel crime. Effectivement, comment allez-vous vous expliquer? Comment allez-vous vous disculper?
Tout accable le couple de gitans. L'affaire semble bouclée. Les policiers tiennent les assassins de Maître Flaudert. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les résultats d'une nouvelle expertise balistique.
Alors Dominique, on a donc une première expertise réalisée en 1980, quelques mois après le meurtre du notaire, et qui dit que l'arme qui a tué le notaire est un revolver 22 long rifle appartenant aux gitans. Et ça, c'est relativement accablant pour les gitans. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième expertise, un peu plus tard, et qui dit radicalement l'inverse.
Oui, exactement le contraire. Les expertises sont ici. La première, elle est accablante pour les gitans, elle est réalisée par le laboratoire de police scientifique de Lyon. On présente aux experts les scellés 3, 4 et 5. Ce sont des balles de 22 longs rifles ou des fragments de balles 22 longs rifles prélevés dans le corps du notaire Flaudert. Mmh. Et on demande aux experts de dire si ces balles ont pu être tirées par le revolver des gitans. Voilà leur réponse. Les munitions des scellés 5 et 3 ont été tirées par la même arme. Le pistolet revolver Rome numéro 7083, donc celui des gitans. Le projectile du scellé numéro 4 semble lui aussi avoir été tiré par cette arme. Pour eux, il n'y a aucun doute, l'arme du crime, c'est le revolver 22 long rifle des gitans.
Vient la deuxième expertise qui dit l'inverse.
La contre-expertise, elle est réalisée par le service de l'identité judiciaire de Paris. Et eux écrivent, il nous paraît très peu probable que les balles des scellés 3, 4, 5 aient été tirées dans le revolver Rome numéro 7083. Et ils ajoutent, il nous aurait été bien utile de connaître les bases de travail des précédents experts.
Donc non seulement ils disent l'inverse, mais en plus...
Il y a une bataille d'experts.
Il y a une bataille d'experts. Il y aura une troisième expertise qui va essayer de trancher entre les deux, qui va donner raison au deuxième expert.
Voilà, c'est la troisième expertise du BK. Elle est réalisée en Allemagne, plus tard, hein, à Wiesbaden. Et alors cette expertise, elle confirme effectivement la deuxième. Elle dit « En raison de la différence d'allure des traces, de la différence de largeur des rayures, le canon d'une arme est rayé. Il a des striures en spirale qui permettent, quand la balle sort du canon, de partir un petit peu comme la mèche d'une perceuse en tournant. Pour avoir plus de performance à l'impact. Et ces rayures, ces striures, elles laissent des marques sur le projectile. Eh bien, elles sont d'une largeur différente à l'intérieur du revolver et sur la munition. Donc les Allemands écrivent, nous devons constater que les trois projectiles n'ont pas été tirés par le revolver ROM.
Et ils sont très formels.
Ils sont très formels. L'arme du crime n'est pas l'arme des gitans.
À l'issue de la contre-expertise, il n'y a plus rien contre les gitans. Mais les gitans, eux, ils sont en prison depuis 4 mois. Il est donc logique de les relâcher, on le fait, et de les indemniser pour ce temps passé derrière les barreaux pour rien. Ils obtiendront au final 120 000 francs de dédommagement de la part de l'État français. Et ensuite, eh bien, plus rien. Il n'y a plus de suspects, il n'y a plus de pistes, rien pendant 9 ans. Le dossier du meurtre de Maître Flaudert est passé aux oubliettes. Jusqu'à ce qu'éclate une autre affaire de notaire, a priori sans aucun rapport, mais qui va lentement mais sûrement conduire les policiers jusqu'à l'assassin.
Tout commence par une banale affaire d'escroquerie. Une jeune femme, Béatrice Thierry, découvre que son notaire, qui est aussi son amant, l'a dépossédée de 2 immeubles dont elle est propriétaire. En fouillant dans les papiers du notaire, elle retrouve l'acte de vente.
Or, c'est un faux. Elle n'a jamais vendu ses biens immobiliers au notaire et surtout, elle n'a pas touché les 310 000 francs de la transaction imaginaire.
Ce notaire que Béatrice Thierry accuse de l'avoir dépouillé n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Arnaud Thomas Chevalier et il exerce à Longwy. Maître Thomas Chevalier est un homme important dans la région. À 39 ans, son étude est florissante et son parcours sans faute. Docteur en droit à 26 ans, fils de bâtonnier, neveu d'un professeur de droit de la faculté de Nancy où il donne lui-même des cours, son épouse est procureur de la République. Il fréquente le gratin des magistrats et des avocats de la région.
Il est très respecté, il impressionne et surtout les gens lui font confiance. Ils lui font confiance parce que précisément il incarne cette justice à laquelle tout le monde croit, surtout dans le pays haut, dans cette région-là.
Au moment où éclate l'affaire Arnaud-Thomas Chevalier, l'économie locale est laminée. En 10 ans, la crise de la sidérurgie lorraine a provoqué la ruine de nombreuses familles. Dans le bassin de Longwy, où le taux de chômage est l'un des plus élevés de France, pour beaucoup, maître Arnaud-Thomas Chevalier incarne la réussite sociale et financière.
C'est un homme très 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 riche. C'est un homme qui flambe, c'est un homme qui dépense des sommes considérables, qui a un train de vie fastueux. Et ça dénote et ça tranche par rapport, évidemment, avec la situation économique de l'époque.
Mais il n'y a pas que sur le plan financier qu'Arnaud Thomas Chevalier se distingue. Le notaire est aussi connu dans la région pour être un coureur de jupons.
Il avait aussi une attirance pour les femmes, il en a eu plusieurs. Et ça aussi, c'est un trait de personnalité assez étrange, parce que ça collait mal avec l'image d'une vie assez lisse de notaire de province, bourgeois, notable, avec une femme magistrat, fréquentant des notables à Longwy et puis un peu ailleurs aussi, en Lorraine, très connus, très respectés.
Béatrice Thierry a partagé la vie de Thomas Chevalier pendant 5 ans. Et quand elle réalise l'ampleur de l'escroquerie dont elle est victime, elle lui propose tout d'abord un arrangement à l'amiable. Arnaud Thomas Chevalier refuse toute transaction. La jeune femme n'a plus qu'une solution, porter plainte. Mais elle comprend vite que son notaire et amant n'est pas un citoyen comme les autres.
Il y avait un rapport de force qui était tout à fait inégal entre un notaire établi... de la qualité de Thomas Chevalier, d'une part, et puis d'autre part, une pauvre maîtresse délaissée qui vient plaider sa cause en disant « j'ai été spolié par cet homme-là ». Le rapport de force est complètement inégal et personne ne croit à son histoire. Personne ne croit à son histoire.
Le commissaire Bordereau est chargé d'enquêter sur la plainte de Béatrice Thiry. Dès le début, il sent que ça ne va pas être facile.
C'est un notable. Bon, il est brillant, il est intelligent. Et il a surtout... il joue à la fois sur une capacité de séduction et des possibilités de pression qui sont assez énormes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Madame Thiry va déposer plainte, on a incontestablement le sentiment qu'elle-même a peur.
Pourtant, la jeune femme s'obstine. Elle refuse de retirer sa plainte.
Pour l'instant, on a donc le meurtre d'un notaire d'un côté, et quelques années plus tard, un autre notaire de la même région qui est accusé de malversation financière. Hormis le fait que les deux hommes exerçaient le même métier, franchement, on ne voit pas le rapport. Et pourtant, les policiers de la PJ ne sont pas au bout de leur surprise.
Le 7 décembre 89, Arnaud Thomas Chevalier apprend par des amis magistrats que la brigade financière de la PJ enquête sur la plainte de Béatrice Thiry et donc sur la gestion de son étude. Il sait qu'il va devoir rendre des comptes. Alors, le notaire décide de devancer la police. Il appelle lui-même le commissaire Bordereau, chargé de l'enquête.
Dès qu'il me téléphone, il me dit qui il est, en me disant d'emblée, mais vous savez, c'est sur moi que vous enquêtez, vous devez me demander ça, ça, ça et ça. Bon, pas parfait. Visiblement, il est au courant de tout. M'explique sa position sociale, la profession de son épouse. Je rentre dans son jeu, vous n'êtes pas n'importe qui, donc il est flatté, ça il aime. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on interpelle, donc dites-nous le lieu et l'heure.
Ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est tellement imbu de son pouvoir, de sa puissance, de séduction, de ses connaissances juridiques, qu'il va lui-même au-devant de la police pour chercher à négocier, ou peut-être à expliquer ce qui peut paraître incongru dans le traitement d'un dossier.
Vers 18h, Arnaud Thomas Chevalier se rend en voiture au commissariat de Longwy. Il se gare devant le bâtiment. Le notaire a l'air parfaitement serein. Il est certain de ressortir libre en fin de soirée.
Il arrive, c'est un seigneur. Il vient s'expliquer. Il daigne s'expliquer. Ce ne sont pas deux policiers venus l'entendre qui peuvent nuire à ses projets.
Et lorsque les policiers lui signifient qu'il est placé en garde à vue, le notaire ne trahit aucune émotion particulière.
Incontestablement, il y a un jeu. Une démarche de manipulation. Il est pervers. C'est-à-dire qu'il en donne un peu et après, cherchez. Amusez-vous.
Le commissaire Bordereau comprend qu'il n'obtiendra rien par la manière forte. Il faut jouer sur la corde sensible du suspect, l'orgueil. Alors, le notaire a droit à un traitement particulier. Ses repas, par exemple, lui sont livrés en main propre au commissariat par sa compagne de l'époque.
Dans les locaux de garde à vue, on va d'ailleurs installer un bureau, dresser une nappe et il va manger. Ce qui nous posera même des problèmes par rapport aux autres gardes à vue. Mais ce qui va lui-même le valoriser. Parce que lui, si vous voulez, il est au-dessus des autres.
Et mis en confiance, petit à petit, involontairement, le notaire livre aux policiers des indices, des informations. Au fil des heures, les enquêteurs s'aperçoivent qu'ils ont affaire à un escroc de haut vol. Il a volé presque tous les clients de son étude.
Cette région sinistrée après le déclin de la sidérurgie, on a affaire à des gens pauvres, d'une façon générale. Mais on a surtout affaire à des gens impressionnables. Il a besoin d'argent, je disais, il ne passe pas au distributeur, il va voir une de ses victimes en disant « mais voilà, vous m'avez consigné une somme insuffisante ». Et qui va oser parmi ses victimes dire « non, c'est pas possible ».
Les malversations, il y en a vraiment plein les tiroirs. Ce sont des vols par dizaines, même par centaines, des abus de blanc-seing, des abus de confiance, des captations d'héritage, des trafics d'actes. C'est toute l'étendue, toute la gamme de la fraude notariale est concentrée dans la seule étude de maître Arnaud Thomas Chevalier. On peut dire de ce point de vue que c'est un cas d'école, quoi. C'est quelque chose d'unique.
Le notaire a dévoilé petit à petit son vrai visage, celui d'un délinquant financier hors norme. Et le plus étonnant, c'est qu'en 10 ans, pas un client n'a osé porter plainte.
Moi, je suis complètement atterré par ce que je découvre pendant ces 48 heures de garde à vue. Même au plus haut niveau des instances du notariat, jamais personne n'allait imaginer ce qu'on avait découvert. Jamais personne. Donc, si vous voulez, on l'imagine effectivement sans limite.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin de tant d'argent? Pourquoi est-ce que vous vous jetez dans toutes ces malversations financières alors que notaire, et puis vous étiez un bon notaire, vous aviez largement de quoi bien vivre?
Alors, dans les 6 derniers mois qui ont précédé mon arrêt, je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs de comptabilité, mais d'une puérilité énorme. Deux comptes ouverts sous des vocables différents, de l'argent des clients à mon compte personnel et réciproquement. Enfin bon, je n'arrivais plus à tenir l'étude.
Des erreurs de comptabilité ou des malversations?
Des erreurs de comptabilité. Je ne me suis pas enrichi de tout ce trafic de comptabilité.
Vous êtes en train de m'expliquer que vous n'étiez pas mentalement les 6 derniers mois, en état de tenir votre étude?
Plus du tout.
Au fond, à cette époque-là, vous étiez un homme extrêmement brillant à l'extérieur, mais complètement paumé dans sa vie personnelle.
Oui, je ne peux pas le... Oui, je peux pas vous dire non. Oui. La personne avec laquelle je vivais, qui allait devenir ma femme, ça, il faut aussi le dire, c'est la seule maîtresse que j'avais présentée à ma femme officielle et à ma fille. On devait se marier, faire un bébé, etc. Hein, c'était un changement de vie complet.
À l'issue de 2 jours de garde à vue, Arnaud Thomas Chevalier pense toujours pouvoir se soustraire à la justice. Mais les enquêteurs ont réuni assez de preuves contre lui et il est immédiatement déféré au parquet du tribunal de Briey.
Là, effectivement... il y a un événement qui surgit qu'il n'avait pas prévu. Il était tellement sûr de lui qu'il n'avait même pas envisagé.
Il n'avait pas prévu, effectivement, que ce jour-là, il ne sortirait pas libre du tribunal de Briey, car le voilà mis en examen pour faux en écriture publique et pour abus de blanc-seing et envoyé immédiatement en prison. Dans le hall du tribunal, une femme l'attend depuis quelques heures. C'est sa nouvelle compagne, celle avec laquelle il a décidé de refaire sa vie. Il l'a même présentée à son épouse dont il est en train de se séparer. À 21h, alors qu'il est emmené par les policiers vers la maison d'arrêt, Arnaud Thomas Chevalier aperçoit cette femme qu'il aime et qui l'attend.
Il fait semblant de verser une larme, il se rapproche effectivement de sa concubine. Il n'est pas menotté, donc on ne va pas se jeter sur lui pour l'en empêcher, compte tenu précisément de ce qu'a été le régime de sa garde à vue. Et là, il va être vraiment très fort, c'est qu'il va se retourner vers le procureur de la République en disant « ma voiture ». Et oui, effectivement, sa voiture, on sait qu'il n'est pas venu à pied, il a une voiture à mettre à l'abri. Donc ça justifie qu'il donne une clé. À aucun moment, nous pensons à vérifier si effectivement la clé est bien une clé de garage et non pas autre chose. On se retire légèrement, donc il en profite pour faire mine d'embrasser sa concubine et on ne va pas coller évidemment la scène. Il va lui parler. Et immédiatement, elle est là, abasourdie, complètement abasourdie, c'est vrai, elle a du mal à réagir. Bon, nous, on continue, hein, et lui-même, immédiatement, repart avec nous. Pour nous, si vous voulez, à ce moment-là, l'affaire Thomas Chevalier va être purement financière. Alors, on sait qu'on va avoir une grosse enquête derrière, mais on n'imagine rien d'autre.
Dans le hall du palais de justice, c'est à cette femme qu'Arnaud Thomas Chevalier va confier un secret qui va remettre les policiers sur les traces de l'assassin de Maître Flaudert.
Je voudrais qu'ensemble, on en revienne à cette scène qui va être capitale dans le destin de votre amant. Et vous êtes dans le hall du palais de justice. Il vient vers vous. Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Il est en larmes. Il se met très proche de moi et il me dit « Tu dois aller à l'étude. Pourquoi ?»« J'ai tué quelqu'un. » »« Qui ?»« Flaudert. » Alors moi, à l'époque, je ne sais pas du tout qui est Flaudert. Donc je lui demande « Mais c'est qui ?»« Flaudert. » Il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Mais pourquoi? J'étais fou. Et là, il m'explique que je dois aller dans son bureau, que s'y trouve un genre de petit cartable d'écolier en cuir, dans lequel se trouve une arme, que je retire cette arme, et c'est tout.
Est-ce que, sur le moment, vous êtes prête à faire ça, c'est-à-dire à vous rendre complice d'un crime?
D'emblée, ne voulant pas le trahir, ou trahir cette marque de confiance, on va dire, hein, je lui dis, je veux en parler. Non. Si, je veux au moins en parler à Nadine.
Nadine, c'est sa femme.
C'est sa femme, j'ai son ex-femme à laquelle il m'a présenté. Il accepte. Parce qu'apparemment, il a autant confiance en moi qu'en Nadine. Voilà, et c'est tout. Tout s'arrête là. Et je repars. Et là, je me dis, t'es dans un film. J'ai appelé Nadine, je ne sais plus quelle heure il était. C'était le soir, il faisait nuit, mais... Je l'appelle, je lui raconte...
Tout.
Tout ce que je viens de vous dire.
Il faut rappeler que Nadine est procureure de la République à l'époque.
Oui, donc je l'appelle, je lui raconte tout, elle éclate de rire. Qu'est-ce qu'il a encore été vous raconter? Non, mais vraiment. Mon mari sera toujours qu'un enfant. Et elle me dit, bon, écoutez, rassurez-vous, c'est rien.
Au moment où vous êtes mise en examen pour des malversations financières dans votre activité de notaire, vous sortez du palais de justice, il y a là les policiers, votre compagne est dans le hall et vous allez la voir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous dites?
Eh bien, les policiers m'ont dit qu'ils allaient perquisitionner à l'étude et à ce moment-là, je me dis, mais tiens, il y a une arme pour laquelle je n'ai plus aucune autorisation, dont je ne me servais jamais. Ils vont tomber dessus et je vais encore avoir plus d'ennuis que ceux que j'avais déjà. Et je lui demande de faire disparaître l'arme, ça fera déjà un chef d'accusation en moins.
Vous lui dites quoi alors, la phrase que vous prononcez?
Enlève l'arme, c'est tout.
Et là, elle vous
évidemment,
dit quoi?
Ah ben évidemment, elle dit mais... Pourquoi? Uniquement parce que tu n'as pas d'autorisation. C'est ridicule, etc. Bon, alors, il faut trouver un autre moyen. Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? C'est elle qui me pose des questions. Elle était très, très vive. Alors, je dis, ben, faut trouver quelque chose. Et revient l'histoire Flaudert. Le nom est venu comme ça. Et puis, c'était aussi la seule affaire pour laquelle je sais que l'assassin n'avait pas été trouvé. Donc je dis, ben voilà, j'ai tué Flaudert. Et elle continue à me poser des questions.
Bon. Vous lui dites, j'ai tué... Vous lui dites,
oui, j'ai dû le tuer, j'ai tué, voilà, c'est tout. C'était très bref. La police était juste à côté de moi. Hein. Je voulais faire disparaître l'arme, j'étais déjà enchaîné et tout, et j'allais en prison. Hein, il faut remettre ça dans le contexte.
Est-ce que vous saviez que Maître Flaudert avait été tué avec ce type d'arme-là?
Ben, c'est-à-dire que dans les quelques jours qui ont suivi l'assassinat de Maître Flaudert, moi j'ai eu un petit problème, tout simplement une rupture d'anévrisme. Donc j'ai perdu connaissance, je suis resté un mois dans le coma, et après, pendant que l'enquête était en route, moi j'étais à faire de la rééducation et à réapprendre d'avoir une vie normale.
Donc vous ne saviez pas qu'il avait été tué par un revolver, 22 longs rifles?
Bah, je savais qu'il avait été tué, j'étais à son enterrement, ça c'était le jeudi, et le vendredi dans la nuit, je perdais connaissance.
Arnaud Thomas Chevalier vient donc de s'accuser auprès de sa compagne du meurtre de Maître Flaudert. Et celle-ci en a informé celle qui est encore l'épouse du notaire, Nadine, qui est magistrate. Elle n'a pas le choix, elle transmet immédiatement l'information au procureur de la République de Briey. Arnaud Thomas Chevalier est maintenant au cœur de deux enquêtes, l'une pour malversation et la seconde pour meurtre. C'est donc ensemble que les policiers de la CRIM et de la brigade financière perquisitionnent son étude.
On a procédé à une perquisition avec un représentant de l'ordre des notaires et on a assez rapidement, dans son bureau, près du fauteuil, découvert une sacoche. On a écarté soigneusement les rabats et on a trouvé tout de suite une arme qui correspondait à l'arme décrite avec une boîte de munitions, près d'une centaine de munitions dans cette boîte. Et l'arme était chargée et approvisionnée, je crois avec 8 cartouches.
Il s'agit d'un revolver. Un revolver Arminius 22 long rifle, du même calibre que l'arme qui a servi à tuer Maître Flaudert 10 ans plus tôt. Dans le sac, les enquêteurs trouvent aussi toutes sortes de documents compromettants, comme des testaments partiellement rédigés et des blancs-seings. Ce que les policiers viennent de découvrir est accablant. Mais une fois de plus, Arnaud Thomas Chevalier garde son sang-froid.
Mais il ne s'effondre pas, on va dire simplement, ça l'agace. Ça l'agace, c'est à ce niveau-là. Encore une fois, il minimise complètement l'importance.
On lui a présenté l'arme pour lui demander si c'était bien la sienne. Il nous a dit oui, c'est bien la mienne.
À ce moment-là, il est encore dans une défense un petit peu spontanée. Donc il sait que l'arme a tué, il l'a dit. Donc il va dire, bah, c'est très bien. Vous avez une arme ? Très bien. Elle a tué ? Parfait. Je l'ai expliqué à ma concubine, prouvez que c'est moi. On retrouve le juriste. Brillant, il faut apporter la preuve.
Immédiatement, l'enquête sur l'assassinat de Maître Flaudert est relancée. Arnaud Thomas Chevalier fait les titres de la presse. Dans la région, c'est la stupeur. Personne n'aurait osé imaginer que l'assassin du notaire de Cons-la-Grandville puisse être lui aussi un notable et un notaire.
C'était une véritable émotion dans toute la région, parce que pour la première fois, un notaire qui est en quelque sorte un représentant de l'État, qui est un officier public, qui est l'époux d'un magistrat, qui est le fils d'une très grande famille, qui est prof à la faculté de droit de Nancy, qu'il soit écroué, qu'il soit mis en cause dans une affaire criminelle, ça a été une véritable bombe.
Certes, le notaire était connu pour ses excentricités, mais qu'Arnaud Thomas Chevalier puisse être un assassin, c'est difficile à croire.
C'est quelqu'un que je connaissais depuis longue date, et il me paraissait totalement incroyable, inimaginable. C'était absolument impensable qu'il puisse se retrouver mêlé, si vous voulez, à une telle histoire.
Et 2 mois plus tard, tombent les résultats de l'expertise balistique. Le revolver 22 long rifle d'Arnaud Thomas Chevalier est bien l'arme du crime. Et c'est le notaire lui-même qui a mis la police sur sa piste en avouant le crime à sa compagne. Mais pourquoi ?
Il fallait qu'il fasse disparaître les testaments parce que nous, les testaments, on aurait immédiatement, enfin ces actes en blanc, nous aurions fait le rapprochement avec ces détournements. Donc il fallait qu'il les fasse disparaître. Mais faire disparaître l'arme, jamais les enquêteurs de la financière n'auraient pu faire de rapprochement avec le meurtre.
C'est lui-même, effectivement, qui s'est dénoncé alors qu'on ne lui demandait rien.
Devant les policiers, Arnaud Thomas Chevalier reconnaît s'être accusé du meurtre auprès de sa compagne. Mais il nie formellement en être l'auteur. Il a dit ça comme ça. Et Thomas Chevalier joue sur un terrain qu'il maîtrise parfaitement, le droit. Pendant de longues heures, le notaire et les policiers jouent au chat et à la souris.
Il prenait quand même les choses d'assez haut, tout en restant abordable. Mais disons qu'il, techniquement, il nous reprenait sur tout ce qu'il pouvait nous reprendre. Bon, sa qualité de docteur en droit, ses connaissances juridiques, notamment sa thèse sur l'instruction, lui semblait conférer une autorité dans ce domaine. Et bon, il n'hésitait pas à nous donner des leçons en permanence. Donc, ça ne rendait pas les choses forcément faciles.
Son attitude ne facilite pas non plus le travail de ses avocats. Maître Glock assure sa défense. Elle a connu le notaire lorsqu'elle était étudiante et qu'il enseignait à la faculté de droit. Et elle retrouve intacte sa tendance à donner des leçons.
Ce qui a été très mal apprécié, c'est qu'à de nombreuses reprises, quelque part, il domine la situation. Certains interrogatoires à l'instruction, c'est lui qui conduisait l'interrogatoire, on va dire. C'est arrivé.
Avec le magistrat instructeur, avec le procureur de la République, avec les policiers de son escorte, il se comportait vraiment comme une espèce de grand bourgeois qui était là, à se promener. Bon, il avait les menottes, mais grosso modo, c'était comme s'il portait des bijoux, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui avait une attitude très étrange, très singulière dans l'histoire judiciaire.
On a donc là un coupable tout désigné, désigné par des aveux et désigné par des preuves matérielles. C'est bien l'arme retrouvée chez Arnaud Thomas Chevalier qui a servi à tuer le notaire. Reste maintenant à découvrir le mobile, pourquoi, et le mode opératoire, comment.
C'est la personnalité d'Arnaud Thomas Chevalier qui va mettre les enquêteurs sur les pistes du mobile. Pour commencer, il aime les femmes. Il est d'ailleurs connu à Longwy pour ses conquêtes. Les policiers envisagent la possibilité d'une rivalité amoureuse entre les deux notaires.
On n'a trouvé aucun croisement entre une vie très rangée, celle de la victime, et une vie beaucoup plus dissolue, enfin, plus riche, entre guillemets, celle d'Arnaud Thomas Chevalier. Donc, après avoir étudié cette hypothèse, on s'est rendu compte qu'elle ne nous menait nulle part.
Outre les femmes, Thomas Chevalier semble avoir une autre passion, tout aussi immodérée. Il aime l'argent. Peu à peu, un mobile financier commence à se dessiner.
Devant des notaires effarés, il avait simulé les dessous de table, donc en public. Hein, il avait montré sa façon de fonctionner avec les dessous de table. Devant ses clercs, il ne se cachait pas que son principal intérêt était de mettre, comme il le disait, des sous-sous dans la boîte. Donc c'était quelqu'un, oui, qui aimait l'argent.
Les policiers se penchent sur la concurrence entre les deux études notariales, celle de Maître Flaudert et celle de Maître Thomas Chevalier. En 1980, en pleine crise, les grands groupes sidérurgiques s'apprêtent à revendre l'intégralité de leurs immeubles. C'est une véritable manne pour les notaires de la région. D'innombrables transactions sont en vue. Cette perspective n'avait pas échappé à Maître Flaudert qui, peu de temps avant sa mort, avait présenté à ses collaborateurs un futur associé.
De nos investigations, il ressortait qu'il était en train de s'associer avec un jeune notaire dont la famille était directement, avait des responsabilités dans l'entreprise Coqueril, l'entreprise qui à l'époque tenait la sidérurgie à Longwy.
Ce nouvel associé permettait donc à Maître Flaudert de s'octroyer un quasi-monopole dans la liquidation du parc immobilier de Coqueril-Usinor. Un mauvais point pour les affaires d'Arnaud Thomas Chevalier, son concurrent. Et pour les policiers, un mobile plausible.
On a un petit peu vu l'évolution des différentes études après le meurtre de Flaudert. Donc on s'est rendu compte que l'étude Flaudert a plongé et que l'étude Person Thomas Chevalier, par contre, a gagné des sommes très importantes. Elle a augmenté très fortement son chiffre d'affaires pendant quelques années. Et on pouvait logiquement déduire que si Flaudert n'était pas mort et s'il s'était associé comme il le prévoyait, la tendance aurait été exactement inverse.
Pour les enquêteurs, le mobile est peut-être là. Le jeune notaire ambitieux a éliminé son principal rival professionnel.
On accuse Arnaud Thomas Chevalier de tuer son confrère Flaudert pour capter sa clientèle. C'est ça. Bon. Bah, écoutez, je ne sais pas combien il y avait de notaires sur le département ou sur le ressort de la cour d'appel de Nancy. Ça en faisait quand même quelques-uns à tuer.
Les policiers ont donc un mobile. Reste maintenant à démontrer qu'Arnaud Thomas Chevalier a pu commettre le meurtre le soir du 4 février 1980. Près de 10 ans après les faits, le notaire ne se démonte pas. Lorsque les policiers l'interrogent, il est catégorique sur ce qu'il faisait ce soir-là.
Voilà, les lundis, je donnais des cours, enfin plus exactement, je dirigeais des séances de travaux dirigés à la faculté de droit de Nancy. Donc on prend pour argent comptant au moins au départ ce type de déclaration.
Les policiers se rendent donc à l'université pour vérifier qu'il était bien à Nancy tous les lundis. Ils espèrent y trouver l'emploi du temps des travaux dirigés l'année du meurtre.
On a énormément de chance puisqu'une secrétaire a conservé dans un placard les horaires des séances de travaux dirigés de l'année universitaire 79-80. Et donc, quelle n'est pas notre surprise, en même temps notre intérêt, de voir que Arnaud Thomas Chevalier ne donne jamais de séances de travaux dirigés le lundi, mais je crois que c'est le mardi plus un autre jour de la semaine, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que le lundi, il n'y en avait pas.
Arnaud Thomas Chevalier a menti. Il ne donnait pas de cours le soir de la mort de Maître Flaudert. Son premier alibi s'effondre. Qu'importe, le notaire avance de nouvelles explications. Et les possibilités sont multiples, car à l'époque des faits, Arnaud Thomas Chevalier avait un emploi du temps assez chargé. Il était certains soirs à son domicile de Thionville, d'autres à son étude, et plusieurs nuits par semaine, il dormait chez une maîtresse à Longwy.
On s'est rendu compte assez rapidement que ni sa femme, ni les relations qu'il avait à l'époque, ne pouvaient, ce soir-là, garantir qu'il était avec eux. Donc, manifestement, aucun alibi ne tenait pour Thomas Chevalier.
La tendance naturelle du délinquant professionnel, c'est avant de commettre un crime, d'avoir un alibi en béton. Or, là, on rendra cette justice à Arnaud Thomas Chevalier, qu'on a, on recherche ce qu'il a pu faire, c'est difficile, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas organisé un alibi. Ça me paraît lumineux.
Ces alibis s'effondrent les uns après les autres. Qu'à cela ne tienne, Arnaud Thomas Chevalier soutient une nouvelle théorie. D'après lui, à l'époque du meurtre, il était très malade et dans l'incapacité physique de tuer.
Alors Dominique, sur ce sujet-là, la santé d'Arnaud Thomas Chevalier, on va solliciter des experts. Alors ce que nous dit le notaire Thomas Chevalier, c'est qu'il était dans l'incapacité de tuer le soir du crime. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il avait?
Arnaud Thomas Chevalier dit que le soir du meurtre, il avait des maux de tête terribles. Et que ça, c'était les prémices d'un malaise qui va intervenir 5 jours plus tard, dans la nuit du vendredi au samedi, un malaise grave. Il va faire un accident vasculaire cérébral, une rupture d'anévrisme, qui va le conduire à l'hôpital. Il est dans le coma, il est hospitalisé, il sera opéré.
La question, c'est, est-ce que parce qu'on va faire un accident vasculaire cérébral le vendredi, le lundi, on n'est pas capable de tuer quelqu'un? Et que disent les experts là-dessus?
Alors, les experts, ils font une réponse de médecin. Ils répondent sur plusieurs points. Ils disent que le processus de l'accident cérébral de Maître Thomas Chevalier, du 8 février, a commencé 3 semaines plus tôt, dès le 14 janvier, par une première fissuration vasculaire cérébrale. Donc le notaire n'a pas menti. Il peut effectivement, le lundi du meurtre, le soir du meurtre, avoir eu des maux de tête terribles.
D'accord.
En revanche, les experts disent que l'état physique du notaire, même s'il est marqué par des céphalées et certains signes de fatigue, a bien été compatible avec la poursuite d'une activité normale jusqu'au vendredi soir, soir du malaise.
Autrement dit, les experts disent que Maître Thomas Chevalier a très bien pu tuer Maître Flaudert malgré ses problèmes cérébraux.
Absolument, absolument. Lui attendait sans doute, Maître Thomas Chevalier, beaucoup de cette expertise. Elle ne va pas lui être d'un grand secours.
En mai 1991, une contre-expertise balistique confirme que c'est bien le revolver de Thomas Chevalier qui a tué Maître Flaudert. Pour se justifier, Thomas Chevalier livre alors une nouvelle explication. Si l'arme est bien l'arme du crime, c'est qu'elle lui a été volée et rendue après le meurtre. Mais volée par qui? Eh bien par les gitans, car il se trouve qu'en 1980, sa maîtresse du moment habitait le même immeuble que les gitans, héritier du testament manuscrit de Mademoiselle Renaud, accusée à l'époque du meurtre de Maître Flaudert. Pour Arnaud Thomas Chevalier, c'est simple. Un des gitans a pu lui subtiliser l'arme dans sa voiture garée en bas de l'immeuble, tuer Maître Flaudert et remettre l'arme en place avant qu'il ne s'en aperçoive.
L'idée d'utiliser une arme, de la prendre pour un meurtre et de la remettre n'avait pas véritablement de sens, puisque d'abord il aurait fallu savoir qu'il y avait déjà cette arme dans la voiture, ensuite la remettre, on ne voit pas tellement l'intérêt, parce que bon, autant la détruire, donc ça nous a semblé être une fausse piste et certainement pas désintéressé pour ceux qui nous l'ont indiqué.
Des policiers ne croient pas à la piste des gitans et restent convaincus que le meurtrier est bien Arnaud Thomas Chevalier qui est maintenant en prison depuis 3 ans. Il y a donc un suspect, une arme, un mobile, mais il leur manque toujours le mode opératoire, les circonstances exactes du meurtre. Qu'a fait Maître Flaudaire entre 18h30 et 2h du matin? Le notaire a-t-il été tué par une ou plusieurs personnes et où? En avril 1993, une reconstitution est organisée, 13 ans après les faits. Arnaud Thomas Chevalier est emmené sur la scène de crime.
Je me souviens bien, il pleuvait ce jour-là, sur la Meuse, ce qui n'est pas forcément étonnant. Et Thomas Chevalier n'est pratiquement pas sorti du véhicule de gendarmerie dans lequel il était. Bon, il a fait quelques pas quand même. Mais là encore, son attitude était tout à fait conforme quand même à sa stratégie de défense, puisqu'il prétendait ne pas être l'auteur du crime.
Tout au long de la reconstitution, Arnaud Thomas Chevalier refuse de manipuler le mannequin, tout comme il refuse de reproduire des gestes qu'il nie avoir commis.
Maître Thomas Chevalier est là tout seul et on lui dit, ben voilà, allez-y, expliquez-nous, accomplissez les gestes. Quels gestes? Que lui faire reconstituer? On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette affaire-là.
Et à l'issue de la reconstitution, les conditions réelles du meurtre du notaire sont toujours aussi floues. Arnaud Thomas Chevalier persiste à nier toute implication. Seule certitude, l'arme qui a tué lui appartient.
Est-ce que c'est lui qui l'a manipulé? Est-ce qu'il a assisté au crime? Est-ce qu'il est le commanditaire du crime à distance? Est-ce qu'il était présent sur les lieux? Là, il y a une zone d'ombre importante. Deuxièmement, il y a la zone d'ombre concernant le mobile. On peut imaginer, on peut faire des hypothèses concernant ses difficultés matérielles, sa rivalité professionnelle avec son confrère, mais on ne l'a pas établi de manière formelle.
À la fin du mois d'octobre 1993, l'instruction sur le meurtre de Maître Flaudaire est close. Arnaud Thomas Chevalier est renvoyé devant les assises de la Meuse.
Lorsque le procès se profile à l'horizon, vous êtes dans quel état d'esprit? Le jour où vous vous rendez à la cour d'assises?
L'instruction a duré plus de 5 ans. Ce que j'ai su, c'est que les seules charges qu'il y avait contre moi, c'était cette fameuse arme et cet aveu entre guillemets. Et puis c'est tout, malgré 5 années de recherche. Ben, j'ai attendu, je ne me faisais pas trop d'illusions.
Le 20 mars 1995, le procès du meurtre de Maître Flaudaire débute devant les assises de Bar-le-Duc. Arnaud Thomas Chevalier attend ce moment depuis 5 ans. Il est certain de pouvoir enfin faire la démonstration de son innocence.
Vous avez des choses à dire encore que vous ne m'avez pas dites.
Je n'ai pas commencé à me défendre. Attendez, je dis, soyez patient. L'audience commence. Hein.
Il est à la prison en face. Et il vient à pied avec son escorte de policiers débonnaires et il traverse la place Saint-Pierre pour venir de la prison au tribunal. C'est vrai que ça fait une impression un peu particulière et ça donne la sensation d'un procès du début du XXe siècle. La salle des assises est toute petite et il s'installe dans le box qui franchement est un petit box bien modeste.
Dans la salle d'audience, face à ses juges, le notaire est en terrain connu. Et c'est lui. Lui qui va donner le ton.
Le président appelle donc et cite Monsieur Thomas Chevalier, ex-notaire. Et là, s'ensuit même pas une joute verbale, mais plutôt un monologue, où il va ridiculiser le président, lui expliquant de revenir à ses classiques, parce qu'il n'a pas encore été destitué. Donc il est notaire.
C'est clair que la justice n'aime pas qu'on vienne lui donner des leçons de droit, notamment quand on est en position d'accuser ou d'inculper. Enfin, bon. Lui ne comprend pas que, au fond, ça serait peut-être plus productif de faire un peu l'imbécile et d'avoir l'air de moins comprendre ce qui se passe.
Quand l'avocat prenait la parole, il avait déjà un risque de se faire moucher par Thomas Chevalier lui-même, parce qu'il est au-dessus. Donc à partir du moment où il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus des lois, il est au-dessus de... Donc il a un comportement que personne ne... Il est incontrôlable.
Le notaire persiste à nier toute implication dans le meurtre. Oui, il s'est bien accusé auprès de sa compagne. Oui, il possède bien l'arme. Mais il n'a pas tué et le reste n'est que pure spéculation. Il est vrai que dans le dossier, de nombreuses questions restent sans réponse. La défense tente alors de faire naître le doute en replongeant la cour dans la première enquête, celle qui désignait les gitans.
Les portes étaient restées ouvertes, si vous voulez. On avait soupçonné des gens du voyage, toute une famille, et finalement, ils avaient été libérés, mais sans qu'on puisse vraiment exclure leur ou la participation de certains membres de cette famille.
Le témoignage du commissaire Bertrand va aller dans le sens de la défense. 15 ans après les faits, il est toujours certain que les coupables ont un lien avec la famille de gitans soupçonnée en 1980. Pour lui, le mode opératoire, la manière dont a été tué le notaire est la signature même du clan.
On s'est passé l'arme de la main à la main pour bien signer et qu'on était tous...
Solidaires.
Plusieurs membres de la famille sont entendus, mais rien de concret ne permet d'étayer la théorie du commissaire Bertrand. Le témoin que tout le monde attend, c'est la femme à qui Thomas Chevalier a avoué le meurtre.
Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de vous être confié à Madame Pouvre ?
J'ai aucun regret, j'ai rien.
Attention, les marches.
Elle est le principal témoin à charge dans ce dossier. Elle est à l'origine de la chute du notaire et elle redoute sa réaction.
Elle croise son regard. Manifestement, il a conservé pour elle toute son amitié, toute son affection, et il lui sourit. Il lui dit « je t'en veux pas, vas-y, de toute façon, on est au-dessus de tout ça, et si tu dois dire quelque chose, vas-y, dis la vérité. »
Elle répète alors, mot pour mot à la cour, les aveux d'Arnaud Thomas Chevalier. Ses déclarations sont accablantes pour le notaire, mais à la fin de son témoignage, la défense lui pose une dernière question.
Coup de théâtre, un avocat lui pose une question et lui demande « Est-ce que pour vous, il est l'auteur de cet assassinat ?»
Est-ce que pour vous, Arnaud Thomas Chevalier, qui a été votre compagnon, dont vous étiez follement amoureuse, est l'auteur de l'assassinat de Maître Flaudert ?
Alors, j'y étais pas. Donc, ça ne peut être que mon intime conviction. Arnaud est un trouillard, voilà. Et ça, je l'ai dit. Il est un trouillard parce qu'une fois, on était à Cannes, en plein jour, sur la croisette, il est à côté de moi, arrivent des jeunes, en face de nous, l'air un peu louche, un peu menaçant, à peine menaçant. Je me tourne, je le regarde pour lui dire, t'as vu, il avait fait deux pas en arrière, il était derrière moi. Lui aussi avait vu, il se protégeait, lui l'homme, derrière une femme. C'est un pleutre ça, c'est pas un homme. Je me dis que quelqu'un comme ça n'ose pas faire ce geste, parce qu'il faut oser. Et c'est un trouillard de ce fait pour moi. Il ne peut pas l'avoir fait. Lui, en tout cas, avec sa main.
Ce témoignage fait le jeu de la défense. Et il n'est pas le seul. Toutes les femmes qui ont partagé la vie d'Arnaud Thomas Chevalier se succèdent à la barre.
À l'exception de Madame Thierry, elles viendront toutes dire qu'elles ne le croient pas capable de tuer quelqu'un. Ça, c'est... Même son épouse, si on la pousse dans ses retranchements... Elle dit, au moins, elle dit plutôt non, quoi. Je crois pas qu'il soit capable de tuer quelqu'un. Voilà. Ce qui est quand même... C'est pas un alibi, mais ça compte.
Les témoins qui se succèdent à la barre mettent en lumière la complexité de la personnalité d'Arnaud Thomas Chevalier. Certains le décrivent manipulateur et obsédé par l'argent. D'autres, supérieurement intelligent, mais beaucoup le pensent incapable de tuer. Face à ce portrait déroutant, l'accusation se concentre sur les seules certitudes du dossier.
Premièrement, il s'accuse. C'est lui qui dit avoir tué Maître Flaudert. Deuxièmement, la balistique, la câble. Et troisièmement, l'immobile, le suprême, l'anéantissent.
Après 7 jours de procès, 2 thèses se dégagent. Celle du doute, fondée sur des impressions et les nombreuses zones d'ombre du meurtre, et celle de la culpabilité avec les aveux et l'arme qui a tué Maître Flaudert. L'avocat général, lui, n'a pas de doute. Il demande 20 ans de prison contre l'accusé. Et là, Arnaud Thomas Chevalier s'effondre en larmes.
C'était surprenant et peut-être à la fois plus pathétique, parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même un raisonneur, vous voyez, et qui finalement s'effondre... Je sais pas, c'est significatif quelque part. Et il s'est effondré en pleurant pour redire qu'il était innocent.
Je crois que Thomas Chevalier pensait s'en sortir quand même aux assises dans le dossier criminel. Parce qu'à aucun moment, on a pu déterminer que c'est bien lui qui avait appuyé sur la gâchette. Et donc, il y avait un doute. Et je pense que, dans son esprit, Thomas Chevalier pensait pouvoir minimiser sa responsabilité dans cette histoire-là, au point peut-être bénéficier de l'acquittement.
Après seulement 2h30 de délibération, Arnaud Thomas Chevalier est condamné à 18 ans de prison.
Lorsque le verdict tombe, comment est-ce que vous réagissez ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, ben, j'avais pris je ne sais plus combien d'années, j'ai dû faire... Je me connais, j'ai dû faire le calcul compte tenu d'une détention préalable de plus de 5 ans. J'ai dit, bon, il me reste encore quelques années à faire. Et j'espère que j'arriverai à me battre pour faire rétablir la vérité, c'est tout.
Pour la justice, l'affaire du meurtre de Maître Flauder est donc résolue. Il y a un coupable, Arnaud Thomas Chevalier. Mais il n'y a pas eu d'aveu. Et les circonstances réelles du meurtre n'ont jamais été élucidées.
Manifestement, nous butons sur quelques petites zones d'ombre que le temps a creusées et que nous n'arriverons sans doute jamais à expliquer. Mais je pense que dans cette affaire, il y a eu aussi beaucoup d'éléments forts qui ont entraîné la conviction des jurés.
Arnaud Thomas Chevalier a été reconnu coupable du meurtre. Mais il y a aussi tous ceux qu'il a escroqués et qui demandent réparation. Les procès civils s'enchaînent et pour certains, aujourd'hui encore, le compte est loin d'être soldé.
Est-ce que vous regrettez de l'avoir, entre guillemets, dénoncé, puisque objectivement, c'est ce que vous avez fait ?
Les conséquences de ce bout de chemin fait avec Arnaud Thomas Chevalier n'ont pas cessé d'une façon négative d'influer sur ma vie. Depuis 15 ans, j'en paie moins les pots cassés, je n'ai pas terminé. Tout le monde a terminé. Arnaud a été condamné. Aujourd'hui, il a payé. À tort ou à raison, je ne sais pas, néanmoins, il est libre. La caisse de garantie de notaire pour étouffer toute l'affaire a indemnisé à tout va toute personne qui pouvait se plaindre pour que surtout ça ne fasse pas tâche sur les autres notaires. Et puis, il y a celle qui a fait son devoir de citoyenne, parce que c'est comme ça que je considère le fait d'avoir parlé, qui a fait son devoir et qui aurait peut-être dû ne pas le faire, non pas pour protéger cet homme, mais pour me protéger si j'avais su. Parce que la caisse de garantie notaire indemnise tout le monde, sauf moi.
2 ans après sa condamnation pour le meurtre du notaire, Thomas Chevalier est condamné à 14 ans de prison pour ses diverses escroqueries financières.
Alors donc vous avez été condamné à 18 ans pour le meurtre de Maître Flauder, plus 14 ans pour l'ensemble de vos malversations financières. Au total, vous avez fait combien de prison ?
Compte tenu de la longueur de l'instruction, j'ai fait presque 13 ans de prison. Depuis le premier jour où j'étais enfermé jusqu'au dernier jour, je disais toujours, un jour, la porte va s'ouvrir, en disant, on s'est trompé, sortez. Ça ne s'est jamais produit, malheureusement.
Depuis que vous êtes sorti, vous n'avez qu'une idée.
J'aimerais bien qu'on rétablisse la situation, c'est vrai. C'est vrai. Qu'on dise que c'est pas moi, oui.
Donc vous allez vous lancer dans une procédure en révision ?
Elle est en cours actuellement, mais ça c'est le travail de mes avocats. Je pense qu'ils sont compétents. Il y a énormément de choses à voir. L'ennui, c'est que le dossier d'instruction, tel qu'il existe déjà, suffirait à m'innocenter. Mais ça, on ne peut plus le reprendre, ça fait partie de ce qui est déjà acquis. Donc il faut retrouver d'autres éléments et j'espère qu'on en trouvera.
Maître Florent, Arnaud Thomas Chevalier dit toujours aujourd'hui qu'il est innocent du meurtre de Maître Flauder et vous êtes l'avocat qui va tenter d'obtenir la révision de sa condamnation. Alors, la loi dit que pour obtenir une révision, il faut des faits nouveaux. Est-ce que vous avez aujourd'hui des faits nouveaux à même d'engager une procédure de révision ?
Alors, un certain nombre de faits nouveaux, effectivement, notamment une expertise balistique que
j'ai fait réaliser à partir des anciennes expertises balistiques qui sont dans le dossier d'instruction. Sachant qu'il faut rappeler que dans ce dossier-là, tout repose sur les aveux très rapides de maître Arnaud Thomas Chevalier et sur un ultime rapport balistique qui estimait que l'arme du crime était celle retrouvée en possession de maître Thomas Chevalier. Or, les expertises balistiques qui ont été refaites depuis par des laboratoires privés sont très dubitatives quant à la certitude des précédentes expertises. C'est-à-dire qu'elles aboutissent à la conclusion, très simplement, qu'on ne peut absolument pas être sûr que l'arme retrouvée chez Thomas Chevalier est l'arme du crime. Deuxièmement, vous le savez, c'est un dossier où il n'y a pas de mobile, c'est un dossier où on est resté pendant 9 ans sans coupable, et c'est un dossier qui n'aurait jamais abouti à la condamnation de Thomas Chevalier s'il n'avait pas, à l'issue d'une garde à vue extrêmement éprouvante, de lui-même porté l'attention sur ce crime que tout le monde avait oublié.
Un mobile, enfin, il y en a un qui a été évoqué. C'est une compétition pour obtenir le marché du démantèlement du parc immobilier du groupe Usinor. Maître Flaudert l'aurait obtenu et Maître Thomas Chevalier le lui enviait. Ça tient, ça ?
À mon avis, ça ne tient pas du tout parce que c'est un mobile fabriqué après coup par le parquet pour enfoncer Thomas Chevalier 10-12 ans plus tard. S'il y avait eu un mobile à l'époque et un mobile sérieux, Thomas Chevalier aurait dû être entendu et soupçonné dans les premiers. Or, il est le seul notaire de la région à ne pas être entendu par les services de police et de gendarmerie. C'est dire si les enquêteurs qui ont passé quand même beaucoup de temps avec une équipe nombreuse estimaient qu'il n'y avait aucun mobile.
Donc pour vous, c'est un mobile construit a posteriori.
Fabriqué dans le cadre de la théorie du coupable idéal après par le parquet. Quand on veut nouer son chien, il faut mettre un mobile. Alors, le parquet le fabrique.
Quoi qu'il en soit, révision ou pas, Arnaud Thomas Chevalier n'en a pas fini avec la justice, car en mars 2005, il a été à nouveau mis en examen pour escroquerie à l'assurance.